C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa,
allez, viens,
avec Geoffrey.
Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous ce soir ? De retour à l'antenne pour une nouvelle émission, et qui dit retour aux sources aujourd'hui. Je reviens à ce que j'aime, à ce que je connais, à ce que je maîtrise, c'est-à-dire la bande dessinée. Donc si vous écoutez régulièrement l'émission, vous le savez, je suis passionné de BD. Je fais pas mal de salons, j'ai le plaisir de rencontrer pas mal d'artistes. Et en plus, au Mans, on a cette chance exceptionnelle d'avoir l'une des plus belles librairies spécialisées dans la bande dessinée, la librairie Bulle. Donc Samuel, qui en est le patron, organise plusieurs rencontres tout au long de l'année, des événements auxquels il participe, notamment le festival Faites Lire. Et au gré de ces rencontres, j'ai eu l'opportunité d'interviewer plusieurs auteurs, déjà. Et aujourd'hui, j'ai pu rencontrer José Luis Munuera lors de sa venue justement au festival Faites Lire de l'année dernière, de 2024. Où est-ce qu'il nous a parlé de son parcours, de sa dernière BD qui était sortie à l'époque, à savoir Peter Pan de Kessington. S'en suivra une chronique faite par un de mes collègues de la radio, c'est Fred des Nouvelles Légendaires, que je remercie d'avoir accepté de faire cette petite chronique pour démarrer l'émission. Et en seconde partie, on va écouter une autre interview d'un autre duo que j'ai pu rencontrer également à la librairie Bulle. C'est Xavier Coste et Antoine Decaune pour la bande dessinée Île Déserte. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même avec un plaisir qui est immense que j'ai eu la chance, le privilège d'échanger avec eux deux. Surtout que si un jour on m'avait dit que j'aurais l'opportunité de rencontrer et d'interviewer Antoine Decaune, j'avoue que je n'y aurais pas cru. Donc, ça sera la deuxième partie de l'émission. Avant, on va démarrer gentiment, comme à chaque fois, avec un son de ma playlist. Cette fois, c'est un son d'Hector Ourien, que vous avez peut-être découvert dans la précédente émission. C'était une recommandation de Leïla Huissou. Donc là, le titre s'appelle Le Sas. Je le lance et on revient juste après.
En fait, je te raconte ça au petit matin, je dois avoir besoin de te remettre à plat. Avec nos deux cuites dans les bras, et puis toi, t'écoutes bien. Enfin, t'écoutes, et puis t'es là. Tu dors pas, tu me dis si jamais tu dors. Je te refais pas l'histoire, tu sais comment, tout a foiré, et je te promets, je me répare, tiens, j'arrive même à en parler. Avant d'aller écrire la suite, t'as raison, je dois vider mon sac. Avec le privilège de l'âge, j'avais un supplément bagage, 4 mois de merde. Mais t'es toujours là, copain. Les gars comme toi, je te le jure, je me les soudrais sur la main. J'ai pissé les larmes qui me restaient, et puis j'ai remonté mon froc. Je marche en chaussettes sur le carrelage mouillé, et ça fait ploc. Je me suis tellement apitoyé, déjà tellement vidé de verre, qu'il me reste qu'à jeter quoi ? Un cubi à la mer ? Je voudrais faire marcher l'assurance. Y a tromperie sur la marchandise, sans loi qui protège les naïfs des choses qu'on leur a promises. Elle m'a tout bousillé, ouais. Pour pas arranger ma poisse, les crises d'angoisse sont pas couvertes au SAV. Un jour ma femme, je la trouverai en haut d'une montagne en or, bien pourrie à escalader. Pour voir si elle fait des efforts. Entre les vies, il y a des sas. Je m'essuie les pieds depuis des mois maintenant. Avant d'écrire la suite, je ressasse. Et ça y est, je crois que ma semelle fout le camp. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse. T'as raison l'ami, sors de cette salle de bain, je vais la chercher la vie. Je crois qu'elle traîne dans des cafés pas loin. Et puis ça fait du bien d'user le temps normal. C'est bourré des lieux communs, mais les chagrins sont très banals. Le vent souffle un peu fort, je me retrouve l'orgueil à vif à mendier. Le cœur dehors, le verbe pas très créatif. Je fais la manche pour une caresse ou un ticket pour câliner. Si j'ai le cœur taillé en pièces, ça en fait plus à partager. J'ai des riches hier, mais le vent tourne bien vite. Alors je fais le tapin, ouais c'est clair, mais cette fois c'est moi qui invite. Évidemment que j'ai peur, vu qu'on permet à l'univers de faire des filles aussi jolies. Et du rejet, une arme de guerre, j'ai pas grand chose à leur dire. Pourtant tu sais je suis un bavard, les mots bavent dans mes soupirs mais le silence se fait buvard. Ça doit faire 30 ans que la soirée patine. Côté musique c'est l'avant, c'est le même connard au platine qui nous fout les plus grosses pives des années 80 et c'est la même lessive. Depuis que je m'en souviens et je suis plus assez torché pour oublier les deux râteaux que je viens de me manger à peine de gorge et plutôt putain la vie. La vraie elle commence c'est plutôt bien mais c'est une sacrée soirée de merde. Sur la fin, entre les vies y'a des sas. Je m'essuie les pieds depuis des mois maintenant. Avant d'écrire la suite je ressasse. Et ça y est, je crois que ma semelle fout le camp. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse. Allez viens, je te cause. Peut-être qu'à force de fuir tout, on trouvera quelque chose. À laisser derrière nous, peut-être qu'on trouvera une raison à nos perruques, à tout jeter dans un tas. On finira par regretter un truc, à moins que ce soit pas fini. Qu'il y ait une deuxième manche, on s'en fout, on fait du ski. Par-dessus l'avalanche, prépare tes cartes mémoire. Ça fera de belles images, au pire on meurt sans victoire. Mais il aura de la gueule le carnage.
Allez viens, copain, viens. Viens qu'on se détériore. Quitte à s'écraser demain, et ben ce soir, on est des météores.
Des météores. Entre les vies, y'a des sas. Je me suis les pieds depuis des mois maintenant. Avant d'écrire la suite, je ressasse. Et ça y est, je crois qu'on va se mettre fou quand. Entre les vies, y'a des sas. Je me suis les pieds depuis des mois maintenant. Avant d'écrire la suite, je ressasse. Et ça y est, je crois qu'on va se mettre fou quand. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse. Je ressasse, je ressasse.
Et voilà, de retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Vous venez d'entendre Hector Aurien avec le titre Le Sas. Je vous laisse tout de suite en compagnie de moi-même et de José Luis Munuera. On se retrouve juste
je
après.
Je suis en compagnie de José Luis Munuera.
Bonjour.
Je le dis correctement, c'est bien José Luis?
Bah, c'est parfait. C'est un accent formidable.
Ouais, avec un vieil accent français.
Voilà. Et moi, par contre, je suis espagnol, donc j'espère que les personnes qui vont écouter cette interview comprendront que cette charme que je dégage,
c'est... Ça... Dommage qu'il n'ait pas l'image.
Voilà. Ah ouais, t'as raison.
Donc, merci de prendre ces quelques minutes pour répondre à mes questions. Mmh. Tu es auteur de bande dessinée.
Exactement.
Tu es donc là au Salon du Livre du Mans pour ton album Peter Pan et Les Cœurs de Ferraille, tome 3.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous présenter justement ton album de Peter Pan, s'il te plaît?
D'accord. Bah, ça s'appelle Peter Pan de Kensington. Kensington Garden, qui c'est un jardin qu'il y a un plan centre de Londres.
Oui.
Et il s'origine cette histoire... avec les toutes premières nouvelles que James Barry, l'auteur de Peter Pan, il avait écrit avant d'attaquer la version qu'on connaît après tous, la version un peu aventure qu'on connaît surtout par Disney interposé.
Okay.
Et donc j'ai découvert cette nouvelle et j'étais carrément étonné, surpris et enchanté par l'univers qu'il décrivait, qui était tout à fait différente de celui qu'on connaît, qu'on associe tous au Peter Pan, à l'univers de Peter Pan, et surtout pour la magie et la poésie que ça dégageait.
D'accord. Donc, ça, c'est une histoire de Peter Pan, mais qui n'a rien à voir avec celui que tout le monde connaît aujourd'hui.
Ça a à voir dans le sens, ça peut se voir comme une sorte de préquel, si tu veux bien. Ça explique, d'une certaine façon, en lecture, en interprétation, de qu'est-ce que... qui est Peter Pan.
D'accord.
Et qu'est-ce que c'est Peter Pan, surtout. Donc voilà, ça, c'est complémentaire, je pense, à la version qu'on connaît tous.
Ok, c'est très intéressant. Et c'est ta troisième adaptation de roman.
Ouais.
C'est devenu quelque chose pour toi d'important d'adapter des romans, de la littérature?
Bah, j'ai trouvé là vraiment un espace où j'ai pu vraiment développer ma propre créativité et ma propre personnalité et m'appuyant justement des textes classique. J'ai pour le moment adapté Bartleby de Melville, l'auteur de Moby Dick. C'est un récit presque métaphysique. J'ai adapté aussi Un chant de Noël, c'est le Scrooge de Dickens. Sauf que dans ma version, au lieu d'être le Scrooge, le vieil Scrooge moche et misanthrope, c'est un dame aussi misanthrope que lui. Mais bon, ça change pas mal de choses. Donc voilà, moi j'ai adapté seulement des textes qui me touchent personnellement et moyennant lesquels je peux m'exprimer moi-même en tant qu'auteur.
D'accord. Donc tu continuerais, c'est quelque chose, c'est un exercice que tu comptes continuer à faire?
Je pense que si.
D'accord. Donc là, tu étais aujourd'hui au Salon du Livre du Mans pour des dédicaces.
Exactement.
Après une journée de dédicaces.
Ouais.
Est-ce que toi, tu constates une différence entre dessiner pour les dédicaces et dessiner pour les bandes dessinées chez toi?
Absolument, c'est pas la même chose du tout. Déjà, la dédicace, c'est sportif. Tu vois, faut faire des dessins l'un après l'autre. Et c'est pas des vrais dessins créatifs. Là. C'est un peu des dessins de stock, d'une certaine façon.
Okay.
Donc voilà, c'est tout un autre exercice, ça n'a rien à voir. Tu n'es pas en train de raconter une histoire, comme quand tu fais une bande dessinée. Tu es plutôt en train de justement parler un peu avec les lecteurs et laisser une trace sur son bouquin. Un petit dessin, juste pour le remercier d'avoir lu le bouquin. Et donc c'est vraiment tout à fait différent. C'est très fatigant au niveau physique, mais c'est très enrichissant au niveau personnel.
Et ce que tu dis, je trouve ça très intéressant parce que au niveau mental, tu es dans des conditions qui n'ont rien à voir justement entre le travail à la maison.
Absolument.
On est dans un espace ouvert, d'ailleurs les gens peuvent l'entendre, il y a du bruit tout autour, il y a l'interaction. Comme tu dis, c'est un travail qui est plus mécanique. Toi, comment tu travailles chez toi aujourd'hui ?
Je m'élève très tôt le matin. Je commence à travailler avant que le soleil ne démarre pas.
Et
je travaille dans la plus grande tranquillité. C'est un avantage formidable de travailler à la maison. Ça veut dire que j'ai mon propre lit pour faire ma sieste, tu vois, ma propre toilette. C'est très très pratique. J'adore.
Mais donc, pas de musique, pas de...
Si, de temps en temps, ça dépend du mood. Ça dépend un peu de l'atmosphère que je vais créer, dans laquelle je vais me mettre. Donc parfois, oui, je mets de la musique. Parfois non, je suis tellement concentré que je ne mets pas du tout de la musique. Donc ça dépend. Ça dépend un peu de ce midi du jour.
Tu as également travaillé sur des grandes séries classiques,
ouais.
Notamment Spirou. Tu as fait un album des Tuniques Bleues.
Ouais.
Tu as œuvré sur des planches pour le Marsupilami, Lucky Luke. Pour toi, reprendre ces grands classiques de la bande dessinée, travailler sur ces classiques de la bande dessinée, c'est quelque chose que tu avais envie de faire, que tu as encore envie de découvrir d'autres classiques, de les adapter à ta sauce?
J'avais jamais y rêvé à un jour pouvoir dessiner Spirou et Fantasio, ou les Tuniques Bleues. Boulébile, comme j'ai fait.
Ah oui, les petits boulébiles, exactement.
Ouais, exactement. Donc du coup, c'est vraiment une surprise totalement inattendue. Ça ne répond pas à un plan de carrière. Mais c'est vrai, on parlait là tout à l'heure des adaptations littéraires.
Littéraire, ouais.
Et mon approche avec les reprises des séries classiques, c'est un peu la même.
Okay.
J'essaye vraiment à trouver mon point de vue, mon propre moi à l'intérieur de cette cadre. Qui a été déjà conçu par des autres auteurs avant moi. Donc voilà, c'est très intéressant et vraiment j'adore l'exercice. Est-ce que j'y ferai plus ? On verra bien.
Mais le poids justement de ces reprises, est-ce que c'est pas un peu trop pesant à certains moments ? Quand tu es annoncé comme dessinateur officiel de Spirou en 2005 ?
J'ai la chance énorme d'être un crétin. Donc... je ne me pose pas trop de questions. À partir du moment où j'ai dit « Oh, mais c'est trop cool !» C'est raté d'office. Donc, je suis perdu, je me lance. Voilà.
Et ça fait plus de 20 ans que tu es dessinateur.
Ouais, voire 30 à peu près.
30
ouais, ouais. Bientôt.
Mais tu ne les fais pas.
Ouais, merci.
Est-ce que tu as constaté une évolution dans ce monde, dans le milieu de la bande dessinée ?
Énorme. Énorme. Ouais. Le milieu, il a énormément changé. La maintenance et la prépondérance du roman graphique, de la graphic novel, du manga qui a débarqué, fracassant tout le monde, et de façon très intéressante pour changer notre façon de raconter des histoires aussi. Donc c'est vraiment un autre écosystème tout à fait différent à celui qu'il avait à l'époque. Le nombre des sorties, il est énorme, ce qui implique aussi que la variété et la différence des textes, des images qu'on peut rencontrer si on rentre dans la librairie des bandes dessinées, elle est formidable. Chacun peut trouver vraiment quelque chose pour lui dans cet écosystème tellement varié qui est la bande dessinée d'aujourd'hui.
C'est vrai. Et aujourd'hui, tout le monde trouve chaussure à son pied. C'est impossible de ne pas découvrir une bande dessinée. Quels sont tes projets à venir, toi, que tu peux parler aujourd'hui ?
Ouais. J'ai toujours plusieurs plats dans ma cuisine à des différents niveaux de cocción.
D'accord.
Donc, il y a certains qui sont sur lesquels j'ai déjà commencé, j'ai bien avancé. Il y a des autres qui commencent vraiment à prendre forme. Et il y a des autres qui sont presque finis. Donc, voilà. interdéployer, il y a encore des adaptations qui vont venir, de travailler là maintenant, et c'est, je suis très heureux de le faire sur l'adaptation d'un roman contemporain qui s'appelle « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin-Desfours, qui raconte l'histoire des amours fraternels entre un homme et son chien.
Okay.
C'est vraiment super intéressant à faire. Je vais continuer à adapter aussi des classiques de la littérature anglo-saxonne, comme je l'ai fait avec Bartleby, Enchant de Noël, et là maintenant Peter Pan de Kensington. Et j'ai continué avec des autres travaux de création propre à côté. Et donc la suite de L'écart de ferraille, qui c'est une série rétro-futuriste, donc une série de science-fiction, mais qui se passe dans un passé improbable et hypothétique, et dont on raconte les émotions des robots.
Et, voilà. Et c'est une série très surprenante.
Bah merci, c'est un peu le but.
J'avais, je vais être en toute honnêteté, quand j'ai vu des robots et des humains, je me suis dit, est-ce que je vais accrocher à cette histoire? Et à chaque tome, vous me surprenez, et j'ai vraiment envie de lire la suite à chaque fois.
C'est formidable. Donc,
félicitations à vous.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Pour terminer cet entretien, une question que je pose à tous mes invités.
D'accord.
S'il y avait une chanson que je devais te demander de diffuser juste après cet entretien, quelle chanson t'aimerais partager?
C'est une super bonne question. Quelle chanson on pourrait mettre? Je mettrais My Girl.
My Girl. Eh bien alors je vais lancer la chanson My Girl et on se retrouvera juste après. Merci José Luis.
Et voilà, donc vous venez d'entendre le groupe The Temptation avec le titre My Girl, comme l'avait souhaité José Luis, que je remercie encore une fois pour cet entretien. On enchaîne tout de suite avec la chronique de Fred, des nouvelles légendaires, et on en reparle juste
quand
après.
Quand Geoffrey m'a demandé de réaliser une chronique sur Munuera, je me suis dit, cool, moi j'avais lu de lui les trois albums de Zorglub, Spirou et Fantasio à Tokyo, ainsi que Bartleby le Scribe. Vu que dans Galéjade, on fait de la culture culturiste, j'ai un petit peu voulu muscler ma chronique et relire la nouvelle Bartleby le Scribe, écrite par Herman Melville. Et donc j'avais le livre en ma possession. Mais Hélas, aléa du temps, aléa de l'amitié, j'avais prêté le recueil de nouvelles où figurait Bartleby à quelqu'un, je ne sais plus qui, et depuis, il est perdu. Il a fallu, pour le relire, trouver deux solutions, une gratuite et une payante. Je vous explique. Aux États-Unis, toute œuvre publiée avant 1924 est dans le domaine public. Bartleby, publié en 1853, ne fait pas exception, puisque même Mickey, Tintin, Popeye n'y ont pas coupé, même très récemment. Ainsi, en quelques clics sur Internet, sur des sites spéciaux, sur des sites spécialisés, tout à fait légaux, comme le projet Gutenberg, il est possible d'avoir le texte Bartleby le scribe en anglais. C'est l'avantage du domaine public. Pourtant, en France, en français, pas possible. Au même titre que Le Roi en jaune, libre de droit depuis 2022, qui vient d'avoir une nouvelle traduction, comme par hasard, impossible de mettre la main sur le texte, de manière libre, légale et gratuite. Or, dans ce cas, il faut acheter l'œuvre. Et dans ce cas, pourquoi pas une adaptation ? Justifier le prix par le regard d'un artiste actuel. Car cette œuvre est ancienne, certes, mais très moderne à la fois. Alors, si le proverbe « traductore, traditore », le traducteur est un traître, me paraît très exagéré, découvrir qu'un magicien de l'image peut nous raconter l'œuvre est très excitant. On va bien regarder des films adaptés de romans, alors pourquoi pas des BD ? L'adaptation de Bartleby par Munuera est superbe. L'histoire surréaliste de ce clerc de notaire qui ne préférerait ne pas travailler est reprise à la perfection. Parler aujourd'hui, avec autant de lucidité, d'une nouvelle publiée en 1853 qui parle de démission silencieuse, de combat contre le capitalisme naissant, la bureaucratie, la lutte par la fuite, cette évocation des bullshit jobs, lire cette œuvre sous le pinceau de Munuera prend tellement de sens en 2025. Lisez Bartleby the Scribe pour comprendre cette ancienne lancée par Bartleby qui sera repris dans Occupy Wall Street. I would prefer not to do. En 2024, nouvelle adaptation de Munuera, le Peter Pan de Kensington, inspiré du Petit Oiseau Bleu de James Barry. Pareil, allez-y, foncez. Car pour un auteur qui a travaillé sur Zorglub, logique de le lire de A à Z.
Et voilà, c'était donc la chronique de Fred. Merci encore à lui d'avoir accepté ce petit exercice pour Galéjade. Alors, donc, comme vous l'avez entendu, Munuera, 30 ans de carrière bientôt, pas mal de bandes dessinées dont on a un petit peu parlé tout au long de cette interview. Si je devais revenir quand même sur 2-3 petits points, il y a un Spirou qui s'appelle L'homme qui ne voulait pas mourir, avec l'oncle de Fantasio qui découvre la fontaine de Jouvence, une histoire de course contre la mort, qui est un très bel album scénarisé par Jean-David Morvan. Il a également... Oh là là, en plus je vous fais un vieux E dégueulasse juste avant. Il a également travaillé sur, sur une bande dessinée avec Kit Toussaint, où est-ce qu'ils adaptent des événements qui se sont passés et qui ont quelque chose d'exceptionnel. Donc le premier tome qu'ils ont sorti, ça s'appelle La course du siècle. Ça se passe en 1904, c'est véridique. C'est la première fois que les États-Unis accueillaient les Jeux Olympiques. Et on va suivre le marathon qui aura lieu à Saint-Louis dans le Missouri. Et 32 coureurs sur la ligne de départ, 14 à l'arrivée, entre le dopage, les accidents, les triches, les sentiers un petit peu non balisés qui ont été pris par certains. Bref, il se passe énormément de choses. C'est une histoire réelle de base. Alors bien sûr, c'est un petit peu adapté pour la bande dessinée, mais c'est quelque chose d'assez étrange. C'est vraiment intéressant à lire. Et si vous voulez en savoir un peu plus, donc ça s'appelle La course du siècle. Il a également bossé sur une série jeunesse, plus jeunesse, qui s'appelait Campbell. Campbell, c'est un pirate, un grand pirate renommé partout dans les Caraïbes, sauf que un jour, sa femme se fait assassiner et il se retrouve tout seul avec ses trois filles. Donc, il raccroche tout et il devient un petit peu père au foyer dans sa petite maison. jusqu'au jour où un ancien pirate le rattrape, Cara Pepino. Et Cara Pepino, il est là pour une bonne raison, il veut trouver un trésor pour avoir les faveurs de l'infâme pirate Inferno, qui est en réalité le tueur de la femme de Campbell. Soit vous le savez dès le départ. C'est en 5 tomes, c'est chez Dupuis. C'est très bien, c'est jeunesse, mais c'est une belle histoire d'aventure où est-ce qu'on va suivre ce papa pirate qui se retrouve dans la piraterie une nouvelle fois et qui aurait préféré rester éloigné. Et donc, comme José Luis en a parlé en fin d'interview, il a abordé le sujet de l'adaptation de Son odeur après la pluie. Donc, c'est le roman de Cédric Sapin de Four. Voilà, j'ai un peu mâché les mots, excusez-moi. Donc c'est ouais, une histoire fraternelle entre un homme et son chien. L'album est sorti, donc si vous connaissez l'histoire ou si l'histoire que José Luis vous a pitché vous a donné envie, je vous invite à vous procurer cet album. Il y a un événement qui aura lieu à la librairie Bulle, enfin organisé en partenariat entre la librairie Bulle, la mairie et la SPA d'Ivry-l'Évêque. Ce sera le 20 juin, ça commencera à partir de 18h. On en saura un petit peu plus prochainement, savoir le lieu. Donc c'est une marche canine. Donc dès que j'en saurai plus, je vous partagerai l'événement. Et si ça vous intéresse, donc c'est le 20 juin. Voilà, c'était un petit peu les petits compléments que je voulais vous donner sur le parcours de José Luis. Si vous avez bien sûr envie d'en savoir plus. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de l'émission. C'est donc l'interview, l'entretien que j'ai pu réaliser à la librairie Bulle de Xavier Coste et Antoine Decaune pour Île Déserte. Île Déserte qui raconte l'histoire du papa d'Antoine qui était parti pendant un an tel Robinson Crusoe sur une île déserte, mais ça, il va mieux en parler que moi. Juste avant, on va s'écouter un son qui a été choisi justement par Xavier Coste. C'est un son extrait de la bande originale de La Plage. Ça s'appelle On Your Own de Blur et on revient juste après.
Antoine, bonjour Xavier.
Bonjour, bonjour.
Merci d'accorder quelques minutes à Galéjade.
Galéjade.
Ouais. dans la préface de l'album, il est écrit que c'est Dargo qui vous a contacté pour faire une bande dessinée. Mm-hmm. Comment vous êtes arrivé à choisir de raconter cette histoire pour la BD ?
Eh bien, ils m'ont proposé de faire une BD. C'était la première fois de ma vie qu'on me le proposait. Donc, j'ai accepté avec empressement parce que j'aime beaucoup la BD. Une fois que j'ai eu dit oui, il fallait trouver l'idée de quoi j'allais parler. On a un peu tourné autour du pot. On avait des idées. Enfin, j'avais des idées de romans que j'aurais pu adapter ou des idées de scénario original. Et puis, en parlant très rapidement, m'est revenu en mémoire cette histoire d'île déserte. Mon père qui part en 62, se met dans les conditions d'un naufragé sur une île perdue à l'autre bout du monde. Alors que moi j'ai 8 ans. Et je repense à cette histoire et évidemment il m'apparaît que s'il y a une histoire à raconter c'est celle-là. Quoi. D'abord parce que c'est une histoire, c'est une véritable aventure. Une aventure complètement déraisonnable, folle comme le sont les grandes aventures. Et que j'y suis lié directement, puisque c'est une aventure que mon père part vivre à l'autre bout de la terre, en me laissant moi, tout seul, avec ma maman, à Paris, dans l'incompréhension la plus totale, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et puis, d'autant plus bizarre que je l'entends à la radio, peu de temps après, le soir, raconter sa vie au quotidien, ce qui se passe, etc. Donc, mon chagrin s'en trouve un peu atténué, puisque d'un seul coup, j'ai la chance d'avoir un père qui est un aventurier, que tous mes copains m'envient. Donc tout ça faisait la matière à la fois d'une bonne histoire et puis d'une BD ou d'un roman graphique plutôt, parce qu'on est plus proche du roman graphique que de la BD. Et il fallait tomber sur l'illustrateur qui allait être capable de partir sur cette entreprise elle-même déraisonnable. Et donc, voilà. Le jeune Xavier qui est en train de dessiner à mes côtés là.
Je pense que c'est le moment où je vais intervenir, c'est ça ?
Ouais, c'est le moment où tu dois parler toi aussi. Alors que j'ai fait une petite rampe de lancement là. Et c'est là qu'il arrive.
C'est mon moment là, il faut que j'en profite.
Pas décisif.
Alors, on va voir
si réussit à faire deux choses à l'intérieur. Tu t'es retrouvé sur l'album.
Alors ça s'est fait très naturellement. Les éditions d'Argo ont pensé à moi assez rapidement, ce qui m'a flatté. Et ensuite on s'est vu aussi vite avec Antoine, et j'ai eu l'impression que le courant est passé très bien, et puis en fait on savait pas où on mettait les pieds tous les deux, et finalement j'ai eu l'impression qu'on avait envie de ça aussi tous les deux. C'est-à-dire que moi c'était mon 10e album, et j'ai toujours peur quand je commence un bouquin d'avoir des trucs de dessinateur ou même de scénariste, et de répéter des recettes, et là ce qui m'intéressait c'était de partir d'un point de départ insolite, et complètement hors norme, quoi, parce que l'histoire m'aurait tout autant intéressé si ça avait été une personne lambda en fait, qui avait tout quitté pour partir un an. C'est déjà assez incroyable. Quand en plus c'est le père d'Antoine de Caunes, forcément ça donne une dimension encore plus hallucinante à l'histoire. On a trouvé plein de choses. Antoine avait chez lui les chroniques radio dactylographiées, il avait le journal intime. Tout ça a fait qu'on a plongé littéralement dedans, sans savoir vraiment où on mettait les pieds, et on a eu plaisir à construire le récit par touche au fur et à mesure. Ça a été un vrai ping-pong, un vrai échange, et aussi, en plus de ça, une vraie surprise de bout en bout. Même quand j'ai commencé à dessiner, quand Antoine a commencé à écrire, on ne savait pas à quoi le livre allait ressembler, on n'avait aucune idée de la pagination, on n'avait aucune idée des rebondissements, parce qu'on découvrait les choses au fur et à mesure. Et tout ça a fait finalement qu'on lisait même les archives personnelles de Georges de Caunes, presque comme un feuilleton, quoi, en même temps qu'on avançait. Ouais.
Et ce ping-pong a duré combien de mois ou combien d'années ?
Cinq ans et demi, quand même. Non, ça a duré... On a travaillé pendant un an, mais c'est allé à une vitesse supersonique, parce que, d'abord, on était vraiment exactement en phase, on racontait la même chose, et on se stimulait l'un l'autre. Moi, quand je voyais ses dessins, ça me faisait décoller et partir, ça me redonnait des idées. Et lui, quand il lisait mes textes, évidemment, ça le boostait. Il n'y a pas d'autre mot.
Et donc, Xavier, tu avais accès à toute la documentation. Vous n'avez rien filtré, vous.
Ah non.
D'accord.
Ouais. Même les... Ouais, j'ai peut-être même des moyens de te faire chanter. J'ai pas pensé à ça. J'y pensais.
Petit karaoké.
Non, mais effectivement, ça demande quand même une certaine confiance, monsieur. Parce que... on se connaissait pas plus que ça, et tout d'un coup je débarque chez lui et je me retrouve à regarder les correspondances de son père, des choses assez intimes, quoi. Donc, c'est...
J'ai confiance.
Ouais. Non, j'étais flatté de cette confiance et j'ai essayé pas de... On a essayé de toute façon de rendre justice à Georges de Caunes, et c'est vrai que c'était une des craintes d'Antoine au départ du projet. Sa crainte, c'était que ce livre puisse sonner comme un livre de reproche envers son père. C'est pas du tout le cas. Bien sûr, il a des griefs ou des choses comme ça, mais on sent un amour infini pour son père. Mais c'était important de l'avoir en tête et que ça parte surtout pas dans un règlement de compte. C'était pas du tout ce qu'il voulait.
Festen.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais en 2023, vous étiez au festival Faites Lire, vous, Antoine ?
Au festival Chrétien.
Faites Lire.
Ah, Faites Lire.
Qui était au Mans.
Ouais.
Le salon du livre. Ouais. Vous aviez, toi aussi ?
Non,
pas cette année-là. D'accord. Parce que je me disais, est-ce que cette période-là, vous aviez déjà commencé à travailler sur l'album ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. On a commencé il y a 15-16 mois, quoi.
Ouais,
un an et demi, allez, un an et demi.
Ah oui.
Ah non, c'est vraiment un projet qui est tombé du ciel.
J'ai commencé les premières pages en janvier 2024.
Et comment tu as traversé cette aventure artistique aussi, mais émotionnellement, comment tu en
as fait ? C'était un petit tour de roller coaster, quoi. C'était. Parce qu'en même temps, c'était une affaire classée pour moi. C'était il y a 60 ans. On va pas ressasser toute sa vie les mêmes choses. Hein. Il faut avancer, donc. Puis j'en avais parlé avec mon père, et puis même si j'avais pas obtenu toutes les réponses que j'aurais voulu avoir, ça appartenait au passé. Donc là, évidemment, on rouvre la malle au trésor, et puis on va fouiller dedans, quoi. Donc on n'en sort pas tout à fait intact, évidemment. Mais en même temps, ça a été, je sais pas, c'est une expérience assez dingue. Alors, je dis pas ça par convenance, parce qu'on est en train de faire de la promo, et que c'est toujours bien de dire que c'est tellement génial et tout. Mais on était vraiment tellement en phase, Xavier et moi, sur la même envie de raconter l'histoire, tout en s'étonnant l'un l'autre en permanence, que j'ai vécu ça avec beaucoup de légèreté, en fait. Ça a remué des choses profondes, mais que j'ai réussi à traiter avec une certaine légèreté, j'espère.
Et est-ce que justement cette île, vous avez été la voir, ou vous avez envie d'aller ?
Jamais.
Non.
Ah bah non, surtout pas. Elle est sinistre.
Oui.
Elle est sinistre. C'est juste pour passer au large, ou même accoster et dire ah ouais, d'accord, et puis en partir. Non, j'ai aucune intention de même m'y installer une journée, 24 heures ou une semaine. Non. En revanche, j'ai très envie d'aller au Tuamotu, qui sont pas très loin des Marquises, pour voir la tombe de Stevenson, mon écrivain fétiche. Et si je vais un jour au Tuamotu, je ferai un crochet.
Au moins
c'est qu'un crochet dans le Pacifique, c'est un gros crochet. Mais oui, je passerai au large, je passerai. Oui. Mais c'est pas une obsession, je me réveille pas la nuit en disant ah, faut que j'aille voir l'île.
D'accord.
J'irai plutôt à Lille d'ailleurs. On ne doit pas aller à Lille bientôt, signé. Ouais. On va se contenter d'aller à Lille.
Il y a l'eau, il y a l'électricité.
Ouais.
C'est moins risqué.
Et des frites.
Dans l'album, vous nous racontez une anecdote qui vous a marqué. On vous voit découvrir quelque chose 62 ans plus tard. Alors, vous en avez parlé dans beaucoup d'interviews. Mmh. Est-ce que vous avez demandé à vos enfants s'il y avait quelque chose comme ça qui les avait marqués, que vous avez fait de manière peut-être non intentionnelle, comme votre père ?
Alors, je ne leur ai pas posé la question, de crainte qu'ils me répondent. Oui, j'ai fait. Bien sûr, il y a eu deux, trois maladresses. On n'y échappe pas, hein, avec les enfants. Le truc qui est pas le bon timing, ou la réponse qui arrive trop tard, ou l'oubli, parce qu'on est occupé ailleurs à faire autre chose. Donc. Oui, j'ai eu droit à ça aussi. Mais j'essaie d'être un bon papa, moi.
Après cette expérience de bande dessinée, est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres ?
Oui, certainement. Alors, c'est plutôt un roman graphique. Hein. Je dis pas ça pour faire.
Oui, non,
d'accord. C'est plutôt roman graphique que BD. Mais écoutez, ça s'est tellement bien passé, tellement sur un nuage cette histoire, que oui, si ça doit se reproduire dans des circonstances proches, évidemment j'ai envie, oui.
Et toi Xavier, comment t'as travaillé justement sur le dessin de cet album ?
Déjà je partage la même envie, et aussi il y a eu un espèce de lâcher prise avec ce livre qui m'a fait un bien fou. Le dessin impliquait beaucoup de liberté pour être en phase avec l'histoire, Et du coup, ça a été une vraie récréation. Certains de mes livres ont été plus laborieux que d'autres. Mais ici, en soi, je ne devrais même pas le dire, mais ça a été presque trop facile parce que...
C'est entre nous.
Mais non, il n'y a pas de perspective et puis il n'y a qu'un seul personnage à dessiner. En vrai, ce qui est plus compliqué en bande dessinée, c'est de dessiner plusieurs personnages, des scènes, par exemple des scènes de repas, il n'y a rien de pire à dessiner. Vous avez 3-4 pages, il faut veiller à ce que tout le monde soit bien assis au même endroit, etc.
Techniquement, ça ne dort pas avec des chiens.
Voilà, c'est ça. Techniquement, il y a.
Tu as dessiné les chiens.
Ah ouais,
d'accord.
À part le chien, effectivement, tout était un plaisir à dessiner. Et puis, du coup, l'île est un peu fantasmée aussi, parce que je ne suis pas allé sur place pour des questions de budget. Et j'avais envie qu'elle soit un peu. Qu'elle corresponde au fantasme que Antoine s'en faisait quand il était petit aussi. Donc, on est dans quelque chose d'un peu indéfini avec des cailloux. Donc, du coup, le dessin était très libre. Il n'était pas contraint par les choses géographiques ou par des montagnes de choses pénibles à dessiner. Et c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien en tant que dessinateur. Et pour moi, le dessin était même presque moins important finalement que la mise en scène. Parce que l'histoire est intéressante, mais on avait peur aussi que le lecteur ne soit pas forcément embarqué. Et du coup, c'est avec des astuces de mise en scène aussi qu'on vient pimenter les choses. Il y a pas mal de scènes de dialogue qui sont ensuite contrebalancées par des phases plus contemplatives. Enfin, pour moi, tout est une question de rythme. Comme le disait Antoine, c'est effectivement ce qui est intéressant avec les romans graphiques, c'est qu'on peut avoir une pagination plus importante et raconter des histoires. Sur une même histoire, on peut la raconter de différentes manières.
Alors, pour conclure...
Ça, c'est fait.
Ouais, ça c'est ok, ouais. On peut passer. Donc, non, juste pour conclure, avant cet entretien et après, je vais diffuser une chanson que vous auriez choisie chacun. Est-ce que vous avez un son chacun que vous aimeriez entendre ou faire découvrir aux auditeurs et auditrices?
Ouais, moi je voudrais bien la version acoustique de Thunder Road, un morceau de Springsteen.
Ok.
Alors, pas la version qui est sur Born to Run, ou sur Darkest, non, c'est sur Born to Run. Une version qu'il a enregistrée, qui est enregistrée à l'Hammersmith Odeon à Londres en 75.
D'accord.
Ça a l'air un peu pointu comme ça, mais ouais. Ça se trouve sur Spotify.
Ok, ouais, je vais chercher.
Donc,
ça.
Mais c'est vraiment cette version piano, okay. Piano-voix.
Et toi, Xavier?
Vraiment, je pense qu'on pourrait prendre n'importe quelle chanson qui est dans la bande originale du film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. C'est pas forcément que des réussites, mais j'avais vraiment en tête le film au moment de dessiner l'album. Du coup, j'écoutais en boucle cette bande-son. Ça m'a aidé à m'immerger.
Eh bien, merci.
Sinon, il y a le dernier 45 tours de Patrick Sébastien. La vie de Dieu, qui est pas mal.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Swing doors to land. Christine dress sweet. Like a vision, she dances across the porch. As the radio plays, Royal Orbis and singing for the Lord. Hey, that's me, babe, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again tonight. Don't run back inside, baby, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Oh, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright, and that's alright with me. You can hide neath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I ain't no hero that's understood. All the redemption I can offer base beneath this old hood. With one last chance to make it good somehow. Hey, what else can you do now except roll down? Take us anywhere. We got one.
some wheels climbing back. It's waiting down on the tracks. When I try hard, Christy, to understand, I'm riding out tonight to chase the promised land. Baby, if you're born with nothing in your hands, hey, it's your only chance. Well, it's lying out there like a killer in the sun. Yeah, I know it's late, but we can make it if we run. Oh, I wish it could come. So leave what you've lost, leave what's grown old on Thunder Road. Well, I got this guitar and I learned how to make it talk. My car's out back if you're ready to take that long walk. From your front porch to my front seat, hey, the door's open but the ride it ain't free. Well, there were ghosts in the eyes of the boys that you sent away. They haunt this dirty beach road in the skeleton remains of burned out Chevrolet. They scream to you at night from the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone, lost in the wind. So Chrissy, climb in. It's a town full of losers and I'm pulling out of here to win.
Et voilà, de retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, et vous venez d'entendre Bruce Springsteen avec le titre Thunder Road. Je tiens encore à remercier Samuel de la librairie Bulle d'avoir pu m'avoir cet entretien avec Xavier Coste et Antoine Decaune. Voilà, merci à lui, merci beaucoup pour tout, et je pense que pour les prochaines interviews que j'aurai dans le monde de la bande dessinée, ce sera sans doute encore une fois grâce à Samuel. On arrive dans la dernière partie de l'émission, c'est déjà la partie des recommandations culturelles, donc il va y avoir que les miennes cette semaine, et je vais en faire deux ou trois. La première, c'est une bande dessinée, étonnant. Ça s'appelle The Nice House on the Lake, c'est en deux tomes. Il y a un troisième tome qui vient de sortir, qui s'appelle The Nice House by the Sea. Mais je vais déjà vous parler du premier diptyque. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouve dans une magnifique demeure au bord d'un lac. Bon, bah là, c'est assez simple, hein. C'est The Nice House on the Lake. bref, tous les conviés, tous les invités ont été invités par un de leurs amis qui s'appelle Walter. Ils le connaissent tous, mais Walter, il a toujours été un petit peu différent, enfin différent, effacé. C'est cet ami calme que vous avez dans un groupe, qui vous écoute plus qu'il ne vous parle, qui en sait beaucoup sur vous et qui ne se confie que peu. Et on peut dire qu'il est un peu bizarre. Donc quand il a invité tous ses amis à venir passer une semaine après cette année qu'ils ont tous vécue, qui était un peu difficile, ils acceptent tous. Et cette maison, cette jolie maison, prend très vite des tournures de prison dorée, puisque Walter, qui a toujours eu son petit univers à lui, a toujours voulu demander à ses amis, et toi, tu l'imagines comment la fin du monde? Et voilà comment démarre cette histoire. Ils sont tous réunis dans une maison, et la fin du monde arrive. Maintenant, je vous laisse découvrir l'album, j'espère que ce petit pitch vous donnera envie de découvrir. Moi, j'ai vraiment dévoré les deux tomes, et là, je suis en train de lire donc la suite qui s'appelle The Nice House by the Sea. J'en parlerai peut-être plus tard. Je voulais également vous parler d'un podcast qui n'est pas sur Radio Alpa cette fois, mais c'est un podcast que j'écoute depuis plusieurs années qui va bientôt s'arrêter. Ça s'appelle le Floodcast. C'est animé par Florent Bernard et Adrien Méniel. Donc, c'est un petit peu ce qui m'a donné cette envie de faire de la radio. Puisque c'est un podcast que j'écoute depuis des années. Donc ils ont annoncé clairement qu'ils arrêtaient à la fin de cette saison, après 10 ans. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez Bon, je vais pas dire l'humour, parce que qui n'aime pas l'humour, ce serait complètement con. Mais si vous aimez bien les trucs un peu feel good, des échanges entre amis et quand même pas mal de barres de rire, je vous invite à découvrir le Floodcast. Et enfin, la troisième et dernière reco que je vais vous faire, c'est la salle de spectacle Rue Nationale, donc le Comédie, qui reçoit pas mal d'humoristes. Donc prochainement, vous allez entendre dans Galéjade des humoristes qui sont passés là-bas, notamment Jonathan O'Donnell. Dans les semaines à venir, là, ils vont recevoir Cécile Marx début juin, ils vont recevoir William Pillet fin juin. Si vous les connaissez pas, je vous invite à découvrir sur leur Instagram Cécile Marx et William Pillet. Il y a d'autres artistes qui vont venir, Rodrigue notamment, pareil, qui a l'air très très drôle, mais au moins William, c'est quelqu'un que je vais pouvoir interviewer, donc il sera très prochainement dans l'émission, et donc j'en profite pour faire un petit peu ma promo pour cette fin d'émission. Où est-ce que je peux vous annoncer, d'ici la fin de saison, vous allez entendre donc une émission plus avec des stand-uppers, donc Pierre Thévenoud et Jonathan O'Donnell, que j'ai eu la chance pareil d'interviewer à la Comédie. Et Pierre Thévenoud, c'est donc La Perche Comedy Club qui m'a laissé cette opportunité de pouvoir l'interviewer, donc ça sera avant la fin de la saison. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On arrive donc dans les dernières minutes de l'émission. Si vous écoutez le direct, je vais vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, je vais vous laisser avec Oblique. Si vous écoutez le podcast, eh ben déjà merci. Et je vais vous laisser avec ce que vous avez envie, le podcast, un autre podcast de Galéjade ou encore autre chose. Profitez bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.
C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey. Allez,